de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le coin diplomatique et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, les magazines culturels, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs et auditeurs, voici la voix de l'Indonésie présente le journal d'aujourd'hui avec Maudrey. Il y a quelques événements à informer, entre autres. Président Joko Widodo appelle les fonds environnementaux à se concentrer sur les ordures et les mangroves. Les Manas commencent à mener des études sur la Papouasie liée à la nouvelle région autonome. Hommes d'affaires de Chine continentale et de Taïwan tiennent un sommet annuel. Président Joko Widodo a annoncé la suspension des exportations de matières premières de bauxite. Vaccination est la clé pour contrôler la COVID-19, a déclaré Erlanger tantôt. Indonésie applique une politique de visa de résidence secondaire. Et langue indonésienne est une matière obligatoire à l'université de Sofia, Bulgarie. Mon cher Joëtard, voici les nouvelles en complet. Le président Joko Widodo a déclaré que l'agence de gestion du fonds pour l'environnement doit être orientée vers de véritables activités liées à l'environnement, car il y a trop d'activités à faire telles que les déchets, la conservation de la flore et de la faune, la réhabilitation des forêts et des terres et ressources naturelles et de la nature marine. Le président Joko Widodo a déclaré que les fonds actuels sont axés sur deux choses, à savoir la gestion des déchets et les fonds environnementaux. Les fonds environnementaux se concentrent sur l'amélioration des terres des mangroves. Selon le président, les mangroves peuvent réduire le carbone de 8 à 12 fois par rapport aux forêts ordinaires. L'amélioration des terres de la mangrove doit commencer par les pépinières de semences pour produire des plantes.
Jangan sampai semuanya nanti anggaran ini tidak kelihatan dan tidak.
Ne laissez pas tout plus tard être invisible et ne pas avoir un impact réel sur notre pays de monde. Je suis sûr que si les biens sont visibles et que nous les réhabilitations les réparons, vous pouvez également les voir. Beaucoup de fonds iront à l'agence de gestion du fonds environnemental. Les fonds déjà versés à l'Agence de gestion des fonds pour l'environnement atteignent 968,6 millions de dollars ou 14,52 billions de roupies provenant de fonds de reboisement forestier, la Banque mondiale, des fondations et d'autres parties. L'Agence de gestion du fonds environnemental a été créée par le gouvernement en 2018 pour fonctionner comme un véhicule de financement pour la protection de l'environnement dont les fonds peuvent être utilisés par divers partis, y compris les ministres des institutions et les gouvernements locaux. Le gouverneur de l'Institut de défense internationale MHANAS, Andy Wijayanto, a déclaré que son institution commencerait à mener des études sur la Papouasie en 2023. Andy, lors de la conférence de presse sur la déclaration de fin d'année 2022, le gouverneur de l'MHANAS Indonesia Jakarta mercredi 21 décembre a déclaré que son institution examinera l'état de préparation des nouvelles régions autonomes. Les nouvelles régions autonomes de Papouasie, à savoir la Papouasie du Sud-Ouest, la Papouasie des Hautes-Terres, la Papouasie centrale et la Papouasie du Sud, a participé aux élections générales de 2024 et aux élections régionales simultanées de 2024. Le gouverneur de l'Institut de défense nationale a déclaré que son parti était conscient que la Papouasie était un problème complexe et ne peut être simplifié. De sorte que dans son étude institutionnelle de la Papouasie, des études transversales seront menées. Il espère que les études de son institution en 2023 sur la Papouasie pourront aider le gouvernement à trouver une solution plus globale sur l'économie et la politique en Papouasie. Andy a ajouté que la Papouasie est devenue l'un des axes des études stratégiques menées par l'Institut indonésien de la défense nationale, en plus de 5 autres sujets, à savoir la consolidation de la démocratie, la transformation numérique, l'économie verte, l'économie bleue et le développement de la capitale Nusantara, IKN. Un sommet pour les entrepreneurs du droit de Taïwan s'est tenu à Chiang Mai, une ville côtière de la province du Fujian en Chine, mardi 20 décembre. Cité par Antara avec pour thème construire un nouveau mode de coopération industrielle, créer une nouvelle économie numérique verte. La conférence a attiré plus de 300 hommes d'affaires des deux côtés du détroit. Pour y assister en personne, plus de 1500 participants inscrits ont participé en ligne. Les participants se sont concentrés sur les efforts visant à promouvoir le développement d'industries manufacturières haute de gamme intelligente et respectueuse de l'environnement et ont discuté de stratégies et de nouvelles voies pour élargir et approfondir la coopération industrielle à travers le droit de Taïwan. Le sommet des hommes d'affaires des deux côtés du détroit de Taïwan est devenu l'une des plus importantes plateformes d'échange et de coopération entre les individus de l'autre côté du détroit. La réunion a activement promu les échanges commerciaux et économiques entre détroits, ainsi que l'intégration et le développement industriel. Le président de la République d'Indonésie, Joko Widodo, annoncera l'arrêt de l'exportation d'une autre matière première, à savoir la bauxite, après avoir précédemment arrêté l'exportation du nickel. Le chef de l'État a déclaré mercredi, lors de l'événement sur les perspectives économiques de l'Indonésie 2023, à Jakarta, que l'Indonésie ne pouvait pas continuer à exporter des matières premières. Il a déclaré que l'arrêt des exportations de matières premières serait effectué par étapes sur une base continue. Le président a souligné que l'arrêt des exportations de matières premières à base de nickel a permis à l'Indonésie de réaliser de multiples bénéfices allant de 1,1 milliard de dollars américains précédents à 30 milliards de dollars américains, car le produit est d'abord transformé en produit à valeur ajoutée. Le président Joko Widodo a admis qu'il n'y aurait pas de problème si la suspension des exportations de matières premières par l'Indonésie était poursuivie par des parties étrangères. Le ministre coordinateur de l'économie de la République d'Indonésie, Erlangga Hartanto, a indiqué que le programme de vaccination est la clé du succès dans le contrôle de la pandémie de COVID-19 en Indonésie. Erlangga, lors du lancement du livre PCPEN, par le biais d'une déclaration officielle à Jakarta, mercredi, a expliqué que l'achat de vaccins et la mise en œuvre des vaccinations COVID-19 se sont révélés être la clé du succès dans le contrôle de la pandémie en Indonésie. Ceci est également reconnu par la communauté internationale. Il a expliqué par l'intermédiaire du Comité pour la gestion de COVID-19 et la relance économique nationale, KPCPN, que pendant la pandémie, l'Indonésie a pris une mesure politique d'accélération et de freinage qui a intégré les soins de santé à la reprise économique. En outre, la diplomatie des vaccins et la décision stratégique de l'Indonésie d'obtenir un vaccin COVID-19 pour tous, ce qui est conforme au slogan qu'aucun pays ne devrait être laissé de côté. À cette occasion, il a déclaré qu'il existait deux vaccins produits localement, à savoir Indovac fabriqué par Biopharma SA et Inavac développé par Université Erlangga et Biotis SA. Le ministre indonésien du droit et des droits de l'homme, Yasona Hamunangan Lauli, a inauguré la mise en œuvre de la politique des visas de résidence secondaire afin d'inciter les investisseurs mondiaux à investir en Indonésie. Yasona, dans sa déclaration écrite mercredi 21 décembre, a expliqué que la politique était motivée par le phénomène de migration d'étrangers vers l'Indonésie avec divers objectifs et activités. L'un d'eux est la beauté naturelle de l'Indonésie, ainsi que le climat agréable par rapport au pays d'origine du touriste. De plus, les étrangers qui viennent en Indonésie sont également influencés par la géographie et le potentiel des ressources naturelles et des ressources économiques qui soutiennent le développement des entreprises et l'investissement. Voyant une opportunité de revenu pour le pays, le ministère du Droit et des Droits de l'Homme a créé un nouveau centre d'immigration pour accueillir les étrangers qui souhaitent investir en Indonésie. Dans son application, la politique des visas de résidence secondaire privilégiera le principe de sélection et le principe d'avantage. Il a ajouté que le principe sélectif est très important pour que la souveraineté de la nation indonésienne soit maintenu contre les menaces, les perturbations, les obstacles et les défis. L'inauguration de la politique ciblant les investisseurs mondiaux et les milliardaires a eu lieu lors de la cérémonie de remise du patrouilleur d'immigration Pura Wiraksatria et du lancement du deuxième visa de résidence à Lagoy Bintan, île Riau. Langue indonésienne est une matière obligatoire à l'Université de Sofia, Bulgarie. L'ambassade d'Indonésie en Bulgarie et le ministère de l'Éducation et de la Culture ont réussi à faire de l'Indonésie une matière obligatoire à l'Université de la langue indonésienne, une matière obligatoire à l'Université de Sofia en Bulgarie. Comme l'a rapporté l'agence de presse Antara, la déclaration de l'ambassade d'Indonésie à Sofia mercredi a déclaré qu'auparavant, pendant 10 ans, les cours de langue indonésienne n'étaient qu'une matière facultative pour les étudiants de spécialisant dans les études du Sud, de l'Est et du Sud-Est. Avant de donner suite à la revalorisation du statut de la classe de langue indonésienne en matière, l'ambassadeur de la République d'Indonésie en Bulgarie, Iwan Bogananta, a rencontré lundi le chef du département du Sud, de l'Est et du Sud-Est, Galina Sokolova et Reina Beneva, à l'Université de Sofia. La réunion a discuté de la durabilité du programme et des efforts conjoints qui pourraient être faits pour assurer la mise en œuvre réussie des cours obligatoires sur l'Indonésie. Le professeur Sokolova a déclaré que le cours de langue indonésienne en tant que matière à option a toujours reçu des réponses et des critiques positives de la part des étudiants. Par conséquent, l'Université de Sofia a décidé de créer un module de cours obligatoire sur l'Indonésie pour les étudiants se spécialisant en études du Sud, de l'Est et du Sud-Est en troisième année. Bon, chers auditeurs, c'est tout, les nouvelles d'aujourd'hui.
Cesarita bonsoir, voici l'accueil diplomatique ayant pour le titre La vivacité de la créativité et du goût indonésien colore le festival indonésien de la ville de Kanto 2022. Le consul général d'Indonésie en ville Ho Chi Minh, Agusta Viano Sofian, est le vice-président permanent du comité populaire de la ville de Kanto, Duong Tanien, ont ouvert le festival indonésien de la ville de Kanto en 2022 qui a eu lieu les 17 et 18 décembre 2022 au parc Luupuok, la ville Kanto. L'emplacement du festival qui se trouve dans le parc central de la ville est la principale attraction pour les habitants de la ville de Kanto. Ce festival est également le premier festival organisé par une institution étrangère dans la ville de Kanto après la pandémie de COVID-19. Les habitants de la ville de Kanto semblaient ravis de goûter à certaines spécialités indonésiennes telles que le satay et le ketopkak et ont participé avec enthousiasme à des démonstrations culinaires d'angdomi, de riz frites, de noix de cajou, au feu de citron vert et de papeda. Pour animer l'ambiance, les visiteurs sont également invités à danser le poco-poco, le secoué moméré et celui d'angdout. Les produits indonésiens exposés comprennent le café, le thé, le chocolat, les épices, les aliments surgelés, les boissons instantanées et les collations indonésiennes, les tissus et la mode batik, les accessoires, l'artisanat, les produits en plastique, artisanat du bois et les peintures de Papouasie. Le programme de performance culturelle de la nuit était rempli de performances culturelles indonésiennes, de défilés de mode batik, de diverses danses combinées à des performances artistiques vietnamiennes. À cette occasion, les lauréats du concours de culture pour les étudiants de Canto sur le thème « Après la pandémie de COVID-19, avancer ensemble pour accélérer la reprise dans l'ASEAN » ont également été annoncés. Des séminaires sur les opportunités commerciales, le jumelage d'entreprises et des séminaires sur la promotion du tourisme indonésien ont également été organisés. Les deux activités ont été organisées en collaboration avec l'Agence de promotion de Canto et le département de tourisme, de la culture et des sports de la ville de Canto. Ce séminaire a été suivi par un grand nombre d'hommes d'affaires et d'activistes du tourisme dans la région de la ville de Canto. La ville de Canto est une ville située dans la région du delta du Mekong, une région fertile et riche en produits agricoles. La ville est la quatrième plus grande ville du Vietnam. Chers auditeurs, c'était la Quai diplomatique pour ce soir. Chers auditeurs, bonsoir. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 22 décembre, la fête des mères. La fête des mères est célébrée en Indonésie chaque 22 décembre. L'histoire de la commémoration de la fête des mères commence avec la tenue du premier congrès des femmes indonésiennes à Yogyakarta du 22 au 25 décembre 1928. Ce congrès a réuni 30 organisations féminines de 12 villes de Java et de Sumatra et visé à lutter pour les droits de femmes, notamment dans les domaines de l'éducation et du mariage. Le 22 décembre 1953, en commémoration du 25e congrès, le président indonésien Sukarno a fixé cette date comme la fête nationale des mères. Depuis ce moment, on célèbre chaque 22 décembre comme fête des mères en Indonésie. L'autre information est sur la journée du corps féminin de l'armée de terre. La formation du corps féminin de l'armée de terre a été proposée pour la première fois par l'assistant 3, personnel du chef d'état-major de l'armée, Sumarno Sostro Atmojo, en 1958. Cette proposition a reçu un soutien et un décret a été publié pour l'ancien corps féminin de l'armée de terre le 21 décembre 1960. Cependant, la journée du corps féminin de l'armée de terre était fixé le 22 décembre pour coïncider avec la commémoration de la fête des mères. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 22 décembre 2018, tsunami du détroit de la Sonde. Le 22 décembre 2018, un tsunami provoqué par l'éruption d'Anak Krakatoa dans le détroit de la Sonde a frappé les zones côtières de Banten et Lampung en Indonésie. Plusieurs mois avant le tsunami, le mont Anak Krakatoa a montré une activité accrue avec l'éruption. Au moins, il y avait 496 morts, 7202 blessés et 154 disparus en raison de cet incident. Selon l'Agence de météorologie, de climatologie et de géophysique, BMKG, le tsunami a été causé par des marées hautes et des glissements de terrain sous-marins dus à l'éruption volcanique. L'Agence nationale de la gestion des catastrophes, BNPB, a déclaré que les dommages matériels causés par le tsunami comprenaient 550 maisons sont endommagées, 9 unités hôtelières fortement endommagées, 60 étals culinaires sont endommagés, 350 navires et bateaux sont endommagés. De plus, l'autoroute reliant Serang et Pandeglang a été coupée. C'est le Talk, c'était l'histoire du jour pour ce soir.
C'était la première chanson indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, d'Indonésie au monde. Et voici donc mon Indonésie.
Chers amis, pour la rubrique suivante, voici donc mon Indonésie et pour le titre, l'Indonésie demande aux pays développés de réaliser la protection de la biodiversité lors de la COP15-CBD. La délégation indonésienne a participé à la 15e conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique, ou connue sous le nom de COP15-CBD, à Montréal, au Canada, du 7 au 19 décembre 2022. Le chef de la délégation indonésienne, le vice-ministre des Forêts et de l'Environnement, Alu Dohong, dans sa déclaration écrite mardi 20 décembre, a déclaré que la réunion de la COP15-CBD avait réussi à élaborer le cadre mondial de la biodiversité, ZBF. L'un des points du cadre est la proposition de fixer un objectif de conservation pour 30% des zones terrestres et maritimes du monde en 2030 ou appelé 30 par 30. Alu Dohong a en outre déclaré qu'en tant que pays en développement doté de la plus grande biodiversité au monde, l'Indonésie a le potentiel d'avoir une plus grande responsabilité que les pays en développé dans la mise en œuvre de l'objectif 30 par 30, ce qui a des implications sur le fardeau financier du pays. Par conséquent, l'Indonésie appelle les pays développés à s'acquitter de leurs responsabilités de financement pour les pays en développement, conformément à l'article 20 de la CBD depuis 1992, mais jusqu'à présent, cela n'a pas encore été réalisé. Le vice-ministre Alu Dohong a ensuite explicitement déclaré son soutien à la position de 70 autres pays en développement, membres des pays partageant les mêmes idées, LMC, de demander à la COP15 de créer un fonds mondial pour la biodiversité afin de réduire le déficit de financement pour la mise en œuvre du GBF. À l'échelle nationale, l'Indonésie a réussi à atteindre divers objectifs de conservation dans le GBF. Alu Dohong a révélé que jusqu'en 2020, plus de 54% de la superficie forestière est déjà une zone protégée. Pendant ce temps, environ 8,7% des zones marines importantes sont légalement protégées. Le gouvernement indonésien prévoit également d'augmenter la superficie des aires marines protégées pour atteindre 32,5 millions d'hectares en 2030 et augmentera progressivement de 30% en 2045. C'est Ritar, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Cerita cinta. Akhir cerita cinta kita.
Voilà, c'était la deuxième chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Changez de tard, maintenant nous allons présenter le magazine culturel.
Ces auditeurs, les milliers d'élèves de l'école primaire et de l'école secondaire, SMP, ainsi que des habitants de Surabaya, dans l'est de Java, ont participé à un événement de masse de danse Remo dimanche dernier. Cette danse de masse Remo a eu lieu simultanément sur 10 sites historiques et de ponts dans la ville d'Oro, Surabaya. La danse de masse Remo a également battu le record du monde Muri. Pour la catégorie superlative, la danse de masse Remo. Le prix du record Muri du monde a été décerné à la ville de Surabaya pour avoir mobilisé avec succès 65 946 participants et s'être déroulé simultanément sur 10 sites historiques et 2 ponts. Cette danse typique de l'Est de Java est exécutée pour accueillir les invités de l'État et pour animer les festivals d'art régionaux et même danser en masse à l'occasion des fêtes nationales. La danse Remo raconte en fait la lutte d'un prince sur le champ de bataille, de sorte qu'au début, cette danse était dansée par des hommes. Cependant, dans son développement, la danse Remo était dansée plus souvent par des femmes, ce qui a donné naissance plus tard au style de danse Remo putri ou la danse Remo au style féminin. Habituellement, le style de danse Remo putri est joué comme une introduction à l'art du tayu. En regardant directement le spectacle de danse Remo, vous serez étonné de voir le mouvement de pieds des danseurs qui sont agiles et dynamiques. Ce mouvement agile et dynamique est également soutenu par des grelots attachés aux chevilles. Ces cloches sonnent lorsque les danseurs marchent ou tapent du pied sur la scène. Outre ces mouvements de jump, il existe également d'autres mouvements, tels que les mouvements de châle ou de sampour, les hochements de tête ou les mouvements de la tête et les mouvements de position. Le spectacle de danse Remo n'est pas seulement intéressant en raison de la beauté et de la dynamique de la danse, mais aussi en raison de l'harmonisation des instruments de musique qui l'accompagnent. Habituellement, pour accompagner cette danse, on utilise le gamelan javanais oriental composé de bonang, sarong, xylophone, flûte, kenong, kempul et gong. Pour les costumes, les danseurs Remo portent généralement des vêtements noirs avec des gilets rouges ou blancs, des shorts en velours noir avec des ornements dorés. Ensuite, les danseurs portent une ceinture et un poignard à la taille et portent un bracelet sur la jambe droite. Cependant, presque dans son développement, cette danse s'est répandue dans toutes les régions de l'Est de Java comme Surabaya et Malang. On voit souvent des variations dans les vêtements portés par les danseurs. Dans la région de Surabaya, les danseurs Remo portent généralement des vêtements de style Surabaya composés d'un bandeau rouge, d'une chemise noire déboutonnée, d'un short, d'un pario batik, d'un keris et de deux foulards. Alors que dans la région de Malang, les danseurs portent des vêtements de style Malang qui ne sont pas très différents des vêtements de style Surabaya. La seule différence est que le pantalon utilisé dans le style de la mode Malang doit être à la cheville. Avec la beauté des vêtements, les mouvements de danse et l'harmonisation de la musique d'accompagnement, la danse Remo sera certainement une performance artistique intéressante. Ces auditeurs, c'était notre programme, le magazine culturel pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Serge Ritard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique l'Indonésie en couleur, intitulée « L'innovation étudiante en STI détecte un tsunami 30 minutes plus tôt ». Située dans la ceinture de feu, l'Indonésie est sujette aux catastrophes naturelles. L'équipe d'étudiants de l'Institut de technologie 10 novembre, ou ITS, a également lancé une innovation sous la forme d'un outil de détection précoce des tsunamis basé sur les infrasons appelés observatoires. Le chef de l'équipe de Sapu Jagat, M. Abdul Hadi, a déclaré que l'innovation initiée par son équipe était différente des détecteurs de tsunamis existants. Cet observatoire peut détecter les tsunamis grâce aux infrasons ou aux sons à basse fréquence générés par le déplacement des plaques terrestres. Les infrasons sont une source de détection car ils ont plusieurs avantages. Cet avantage est dû à la fréquence relativement faible des infrasons, de 0 jusqu'à 20 Hz. Cela permet une atténuation du signal dû à de très faibles interférences provenant d'autres signaux, de sorte que les données graphiques infrasonores brutes obtenues n'ont pas beaucoup de changements et sont toujours alignées avec les ondes infrasonores résultant des déplacements des plaques terrestres. Le fonctionnement de cet outil est divisé en trois processus, à savoir la détection, l'association et la localisation. Le processus de détection est le processus initial pour détecter si un tremblement de terre qui se produit déclenchera ou non un tsunami. Dans le processus, lorsqu'un tremblement de terre se produit, les capteurs des éléments de l'observatoire les plus proches de l'emplacement du tremblement de terre détecteront automatiquement le point infrasonore qui apparaît. Ensuite, le signal infrasonore est capté par un système appelé Adaptive F-Detector pour analyser si le tremblement de terre qui s'est produit a le potentiel de provoquer un tsunami ou non. Si les résultats de l'analyse AFD indiquent qu'il existe un potentiel de tsunami, le système AFD émettra automatiquement un système d'alerte. Basé sur infrasons, l'innovation dans le détecteur de tsunami créé par l'équipe de Sapu Jagat peut détecter un tsunami potentiel 15 minutes plus rapidement que d'autres détecteurs de tsunami tels que buoy. Ainsi, l'observatoire peut détecter un endroit où un tsunami se produira 30 minutes avant qu'il se produise. Chers amis, c'était la rubrique l'Indonésie en couleur de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Pernah kulihat dia. Hatiku bertanya, apakah dia sudah ada yang punya? Namun semua itu tak penting bagiku. Dia cantik sekali, dia manis sekali. Ingin jumpa dengannya untuk yang berikutnya. Dia akan jadi gadisku.
Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français. C'était l'autre belle chanson indonésienne. Et vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Et maintenant, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie au monde, avec moi Audrey. Ce soir, dans la rubrique magazine musical, je vais vous présenter une chanson de Rafika Duri, intitulée Cinta Pertama. Chers auditeurs, Rafika Duri est une chanteuse qui s'est fait connaître des mélomanes indonésiens dans les années 1970. Elle a également participé au concours Vocal Star de radio et de la télévision de 1976. À cette époque, elle est apparue avec Harvey Malehulu, qui ont tous deux réussi à sortir champion. Les deux gagnants de concours, Rafika Duri et Harvey Malehulu, sortent souvent des chansons en duo, dont l'une est la chanson Cinta Pertama. Cette chanson raconte l'histoire de quelqu'un qui aime toujours son premier amour, même s'il n'est plus avec lui. Ce jour, voici Rafika Duri et Harvey Malehulu va chanter une chanson intitulée Cinta Pertama. Bonne écoute.
Bulan indah kembali
Bonjour Gétard, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @voiceindonesia et d'Instagram @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia et regardez sur notre YouTube Voice Indonesia. Pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.